Chapitre 7. Mathilde et Sébastien étaient mariés depuis 8 jours. Le soir, ils inauguraient, avec leurs associés Baudois, le magasin de vin boulevard Poissonnière. Paris, au renouveau d'avril, souriait avec allégresse. Les consommateurs emplissaient bruyamment les cafés, garnissaient les terrasses. Sur la chaussée, dans les autos grondantes et les voitures paresseuses, les femmes rajeunies, étalées sur des coussins, dans leurs toilettes claires, jouissaient du parfum des verdures, de l'odeur tiède des boutiques illuminées. Vers l'opéra, le soleil s'allongeait dans un ciel sans nuages, parmi des brumes dentelées de pourpre et d'or, dont les reflets puissants traînaient jusque sur les maisons aux fenêtres noires, sur les trottoirs bleus. À cette heure mystérieuse, chuchotante d'amour et de mélancolie, la foule ruisselait avec des rumeurs confondues de fatigue et de joie. Le flot, de même qu'à un barrage, s'agglomérait, boulevard Poissonnière, devant le magasin Baudois Lampéric. La vitrine mesurait 10 mètres de long, garnie d'une glace transparente, limitée à droite et à gauche par un panneau couleur d'or. Sur la porte, à droite de la glace, des lettres d'or indiquaient le commerce de l'association. Baudois Lampéric, vin du Languedoc, direct de la propriété. Derrière la glace courait, à mi-hauteur d'homme, une rampe de bois rougeâtre dont la crête se hérissait de sculptures, représentant, avec leurs couleurs respectives, des raisins, une poire, une figue, une tomate, etc. Ces images intriguaient les passants. Ce qui les amusait davantage, c'était de voir, dans la boutique, les moindres détails de l'agencement. Sur deux côtés, vers la gauche, régnait une table à demi-circulaire, où écrivaient des employés, une vingtaine, que Léon avait recrutés au hasard, rebuts et parias de la civilisation, desséchés par le jeûne, respectables et taciturnes. Au-delà de la porte, une tenture de velours grenat dissimulait la porte du cabinet directorial. On avait tapissé les murs de tiroirs encore vides et disposé sur le parquet des tonneaux de dimensions diverses aux jolies lueurs de cuivre derrière le dos des employés. Au milieu de la boutique, Léon, noble en sa barbe blanche, le buste droit, se promenait lentement, 5 pas à l'aller, 5 pas au retour. Auprès de lui, Sébastien, cossu sous le gibus qui paraissait un fardeau à sa tête pâle, pérorait d'abondance, une main dans la poche du gilet, l'autre rythmant ses phrases. À force de parader devant la foule curieuse, il se grisait de leurs illusions. « L'installation, disait Léon, ne nous aura coûté, en somme, qu'une 10 000 francs. » Mais les employés, à 100 francs chacun, ça ne fait que 2 000 francs par mois. Pour qu'ils coûtent moins cher, on pourrait leur infliger des amendes de temps en temps. Oh, nous aurions vite mauvaise réputation. C'est égal, personne ne nous a encore acheté une barrique. Nous avons oublié l'essentiel, distribuer des prospectus. Il faudra chercher un autre moyen de réclame, un moyen inédit. Ah, ces Parisiens, tas de gobeurs, va! Regardez-moi cette foule qui bâille devant une boutique où il n'y a rien. Soudain, ils se détournèrent, gentils, empressés, au devant de Mathilde qui sortait du cabinet directorial. Depuis que, par les soins de son mari, elle était femme tout à fait, Mathilde resplendissait d'une grâce virile. La poitrine opulente, les hanches rondes, elle marchait avec une souplesse insinuante et tout son corps semblait, comme son visage au grain de soie rose, sourire de bonheur. « Avez-vous bien travaillé ?» lui dit Léon. « Mon Dieu, oui, » répondit-elle. « J'ai écrit à ta mère, Sébastien. Je n'ai pas mis sans doute l'orthographe. N'importe, j'ai écrit avec mon cœur. » « Bonne Mathilde !» s'extasia Sébastien. Dès l'apparition de Mathilde, la foule s'était amassée, plus compacte, sur le trottoir. Sébastien, dans sa gloire d'époux, se troubla un peu d'une telle curiosité. Elle, au contraire, examinait avec tranquillité ses ongles, plus reluisants que des bagues. Mais, ayant relevé le front, elle reconnut, parmi les badauds, Pierre, son camarade, qui la regardait avec des yeux courroucés. Elle pâlit, chancela d'une angoisse si profonde que Sébastien, alarmé, dut la soutenir par la taille. « Tu te trouves mal ?»« Non, ce n'est rien. »« Si, parle-moi. » Elle vit de nouveau, parmi la foule anxieuse, Pierre, qui maintenant la menaçait d'une main. Allons-nous-en, dit-elle. Où? Entre ici. Tiens, c'est lui, lui qui me regarde, Pierre. Je ne peux le reconnaître puisque je ne l'ai jamais vu. Laisse-moi. Écartant son mari, elle se réfugia, lente et hautaine, dans le cabinet directorial. Les deux hommes la suivirent. Léon n'osait la toucher. Il la voyait plus précieuse en son désarroi, le corps à l'abandon dans le fauteuil où elle se renversa, la nuque reposée sur le bras de son mari. Les paupières closes, elle pleura. Quel mystère s'agitait donc en cette âme d'enfant qui avait jusqu'à cette heure montré, au milieu de sa fortune, tant d'assurance. Elle suffoquait de honte et de colère, pleurait, criait, frappait des pieds. Léon proposa de dégrafer son corsage. Une syncope, il faut de l'air, de l'air. Il avançait déjà ses doigts habiles lorsque Sébastien honnêtement l'arrêta. Tu déshabillerais ma femme, ne te gêne plus. Eh, mon ami, c'est dans ton intérêt. Soit. Mathilde reprit son équilibre, ne fût-ce que pour éviter une brouille entre les deux hommes, et sur les instances de Sébastien, elle expliqua la cause de son malaise. Tu n'as pas vu Pierre ? Mais je ne le connais pas. C'est vrai, il me regardait avec des yeux de bête fauve. Je crois qu'il se serait rué sur moi à travers la glace s'il avait pu. Tu n'as rien à te reprocher ? Non ? Alors tu n'avais qu'à lui tourner le dos. J'étais là pour te défendre. C'est vrai, on ne raisonne pas. Pour le rassurer lui-même, en ses appréhensions d'époux ombrageux, elle saisit son front tendrement, le baisa d'une bouche tremblante, avec un appétit qui fit tressaillir d'envie Léon dans son coin. Sébastien, à mesure qu'elle s'égayait, lui tapotait les joues qui brûlaient encore de larmes. « Que Léon, supplia-t-elle, aille voir si Pierre est resté dans la foule. » Léon tout de suite obéit. Il remarqua dans le magasin une certaine effervescence parmi les employés qui, le porte-plume à l'oreille, épièrent ses gestes pour surprendre une explication du drame. Léon, finot, affecta de l'insouciance. « Messieurs, ne flânons pas !» Il observait néanmoins dans la foule les têtes nouvelles qui se pressaient contre la glace. Pierre avait disparu. Moins encore que Mathilde, il avait supporté avec calme l'émotion de leur rencontre merveilleuse. Il avait eu peur pour elle, pour son bonheur et sa sécurité. Et, bousculé par la foule méchante, il avait repris son chemin sans une protestation. Jamais il n'avait autant souffert de sa misère, sentit la jalousie lui labourer ses membres comme un couteau. Dans sa chambre glacée, il dormit mal, hanté soudain par un fantôme qui soulevait les ténèbres pour rire de lui. Au réveil, il éprouva dans sa tête, contre ses tempes, le martèlement continu d'une masse de bois. Il ne put se rendre à l'ouvrage. Dans son isolement, l'idée de manger, de boire, ne lui vint même pas. Tandis qu'alentour bourdonnait la rumeur de Paris dédaigneux, il eut honte de se savoir délaissé. Ah, s'il avait su! Au lieu de se soumettre aux caprices de Mathilde, il eût prise de force entre ses bras, il eût imposé dans la chair adorable de sa bien-aimée le goût de la vie de la sienne. Le soir, en montant vers sa chambre, ramena le fantôme rieur de Mathilde parmi les brouillards. Il écoutait là-bas, dans la rue, le bruit des ouvriers rentrant dans leur taudis, lorsqu'un bâton, à plusieurs reprises, cogna sa porte. Étonné, il cria « Qui est là ?» « Ouvrez, ouvrez !» répondit la voix volontaire d'un homme. Il soupira de déception et, se reposant sur son lit, grommela « Vous vous trompez, je ne vous connais pas. N'êtes-vous pas Pierre Virazel ?»« Si, attendez !» Il ouvrit, non sans méfiance. Alors devant lui apparut un peu narquois, rouge de sueur, M. Alexandre Jaume. « Je ne vous connais pas !» balbutia Pierre. « Minute !» L'intrus referma la porte, ensuite s'assit paisiblement sur la chaise. « Bonjour, jeune homme, ou plutôt bonsoir. Mais, monsieur, vous vous trompez. Non, je suis un propriétaire, celui de la maison de la rue Lepic, où habitait, il n'y a pas longtemps, une personne que vous connaissez beaucoup, celle-là, Mathilde Baudry. Mathilde ? Ma concierge, Madame Gobert, qui est au courant des gens et des choses de tout le quartier, m'a raconté vos petites histoires avec cette jeune dame. Elle m'a donné votre adresse et je suis venue vous trouver. Ah, pourquoi ? Parce que vous pouvez me servir. Oh, je vous récompenserai. Je fais encore, de temps en temps, construire des maisons. Je vous embaucherai dans une entreprise. D'abord, dites-moi où est passée notre Mathilde. Est-ce qu'elle vous doit quelque chose ? Non. Elle s'est mariée avec un bourgeois, un de vos locataires. C'est donc vrai ? Diable, Madame Gobert m'avait déjà renseigné. Seulement, je me défie des exagérations. Où demeurent-ils, ces nouveaux mariés ? Sur un boulevard, dans un magasin superbe. Et vous ne regrettez pas votre Mathilde ? Vous souhaitez peut-être qu'elle fasse fortune avec son mari ? Pierre baissa la tête et sombrement répondit « Je souhaite qu'elle soit punie de m'avoir délaissée. Qu'est-ce que je suis, monsieur, à Paris, sans elle ? J'enferme ma colère au fond de moi tant que je peux. Mais si je ne craignais pas la police, je me vengerais. » Il frappa de ses poings les draps minces de sa couche. Puis, rougissant de son impuissance, il leva les yeux sur cet homme immobile qui le regardait et lui demanda « Pourquoi venez-vous me trouver ?»« Parce que je ne veux que du bien à votre ami qui s'est fourvoyé dans ce mariage, parce que son mari est un coquin. »« Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Je ne peux pas le dire, mais je lui veux du mal de mort. »« Oui, il s'est fichu de moi. Il me le paiera cher. »« Ça ne me surprend pas qu'il vous ait volé votre ami. Nous devrions nous liguer contre lui. »« Comment ça ?»« Tenez, voilà ma carte. » Venez me voir dans 8 jours. Je vous expliquerai comment délivrer votre ami et tordre le cou à son maître. » Pierre prit timidement la carte et pilla en dessous cet homme charnu, aussi mal vêtu qu'un chef d'équipe. Puis, d'une voix sourde, il répondit « Croyez-vous que je me mettrai à votre solde pour accomplir une mauvaise action ? Vous ne m'avez pas compris. Ce gredin et sa femme se moquent de vous pendant que vous souffrez. » Oui, je suis seul à présent sur la terre et l'amour me ronge. On peut toujours essayer de séparer mon ami de son époux. Avec moi, qui connais les tribunaux et la police, vous ne risquerez rien. Venez donc à Saint-Mandé dans 8 jours, jeune homme. Eh bien oui, monsieur, j'y viendrai. On s'entendra. Monsieur Jaume sortit, un peu solennel, avec le fracas de ses souliers ferrés sur le carreau.